France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
On peut lui parler de tout ce qu'on a au fond de nous. Et il y en a plein, quand ils ne sont pas bien, bah, ils viennent lui parler. Et elle essaye de résoudre les problèmes.
Il y a beaucoup moins de bagarres depuis qu'elle est venue qu'avant.
Nous, le fait qu'on puisse être aux abords des établissements, ça c'est hyper important. Parce qu'une seule information peut désamorcer un conflit qui peut amener jusqu'à la mort.
Je crois à la médiation parce que je pense que dans un pays extrêmement clivé, la culture de la médiation, c'est-à-dire la culture de l'apaisement, est quelque chose que nous devons construire.
Trois morts en un an, État absent, tous unis contre la violence. Voilà ce que l'on pouvait lire sur les banderoles brandies mercredi soir au Lila, en Seine-Saint-Denis. La colère n'est pas retombée depuis la mort de Kevy, 15 ans. Il y a deux semaines, il a été poignardé en pleine rue devant le stade où se tenait un cours de sport. Kevy a été victime d'un conflit entre bandes rivales, d'une guerre des territoires. Si de tels drames restent exceptionnels, les tensions, elles, sont récurrentes dans et aux abords des établissements scolaires de certains quartiers. Mauvais regards, insultes, voire agressions physiques. Et parfois, ce sont des élèves ou leurs parents qui s'en prennent aux enseignants, claquent, coups de poing, menacent avec une arme. La violence scolaire n'est pas en augmentation, estime Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation indique qu'il y a chaque jour entre 20 et 30 incidents graves à mettre en regard des 63 000 implantations scolaires en France. Mais il reconnaît qu'il y a eu, ces dernières semaines, des faits d'une gravité exceptionnelle et il s'engage à faire un point national sur ce sujet chaque trimestre. Parmi les pistes pour prévenir les violences, le développement de la médiation, intervenir au tout début des crises pour les désamorcer et rétablir le dialogue. Le principe n'est pas nouveau, mais les expérimentations ont pris de l'ampleur depuis 2012. Et si l'on en croit l'évaluation menée par un laboratoire de la Fondation nationale des sciences politiques, elles portent leurs fruits. Médiateur scolaire, déconstruire la violence du quotidien, c'est un reportage signé Rosalie Lafarge. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons le ministre chargé de la ville et du logement auprès de Jacqueline Gourault, la ministre de la cohésion des territoires. Bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
Ensemble, nous allons commencer par écouter le reportage de Rosalie Lafarge. Rosalie, une expérimentation nationale a été lancée il y a 7 ans pour voir si la médiation scolaire pouvait contribuer à prévenir les violences. Aujourd'hui, on en trouve où des médiateurs ?
Eh ben, on en trouve une vingtaine dans les Hauts-de-France, pareil en Guyane, une quinzaine en Île-de-France et après, il y a quelques postes à Rennes, à Nantes ou dans les Alpes-Maritimes, à chaque fois dans les quartiers dits prioritaires. Et surtout, c'est un projet en plein développement, on le verra sûrement avec vous, monsieur le ministre, mais des dizaines de nouveaux postes de médiateurs doivent être créés. Et là, on devrait renforcer leur présence en Île-de-France, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Charente.
Alors, on part tout de suite en Seine-Saint-Denis pour voir en quoi consiste concrètement ce rôle de médiateur.
C'est ta place. Tiens, tu veux pas ? Regarde.
Le calme règne en ce début d'après-midi au collège Jean Jaurès de Pantin. Mais ce n'est pas le cas tous les jours dans cet établissement classé REP+, réseau d'éducation prioritaire. Alors aujourd'hui, dans son petit bureau au canapé gris réparti autour d'une table ronde, la médiatrice a choisi de travailler avec des élèves de 5e sur la communication non violente.
Alors on commence les cartes magiques. Vas-y.
Vas-y, tire au sort.
Alors, moi, j'ai besoin de lien.
Besoin de lien. Quand est-ce que tu ressens ce besoin de lien ?
Bah, quand je suis tout seul, quand je suis dehors, je vois, il y a des gens, ils jouent ensemble. Et moi, je me dis pourquoi je peux pas jouer avec eux.
Et qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là ? Comment ça se manifeste, ton besoin ?
Je suis mal. Je me sens rejetée. Et après, bah, je vais essayer d'y aller. Mais il y a la peur qui vient.
Il y a la peur ?
Ouais.
La peur de quoi ?
La peur du regard des autres.
La peur de se faire rejeter.
Ouais. Tu peux avoir peur d'être rejeté. Et du coup, ça ne te met pas forcément...
En confiance.
Et quand on ne se sent pas très bien, qu'est-ce qui ressort souvent ?
La tristesse ou la colère.
Allez, une autre carte.
Besoin de sincérité.
Alors, qu'est-ce que tu comprends dans besoin de sincérité ?
Que j'ai besoin que des gens ils soient sincères avec moi, qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'ils ne passent pas par des autres personnes pour dire ce qu'ils pensent de moi.
Qu'est-ce que ça te fait si jamais c'est pas satisfait ce besoin-là ?
Bah ça m'énerve. On peut avoir une bagarre après.
Alors tu sais pourquoi il y a une bagarre après ou pas ? T'as compris pourquoi ?
Parce que je sens qu'ils sont pas sincères avec moi.
Donc ton
qu'ils
besoin,
jouent à une double face.
Ton besoin à ce moment-là, il est satisfait ou il est pas
non,
satisfait ?
Non, insatisfait.
Et quand il est insatisfait, ça génère quoi ?
De la colère, de l'énervement.
Qui n'a pas donné son... Allez, vas-y. Vas-y, besoin de respect. Pourquoi ? Ça t'est déjà arrivé de pas te sentir respecté par quelqu'un ? Et qu'est-ce qui s'est passé en toi ?
Wesh.
J'étais énervée.
Et donc, si tu es énervé, potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer?
Je peux m'énerver violemment.
Et donc, ça peut aller jusqu'aux mains.
C'est pour ça que, oui, c'est important, le besoin de respect. Et le respect, c'est dans les deux sens. Il faut que chacun arrive à trouver la limite pour se respecter les uns les autres. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas vivre ensemble.
Les choix de chacun.
Qu'est-ce qu'on peut respecter d'autres aussi?
Les avis. Ouais. Les communications, on va dire.
Les convictions.
C'est
ce mot que tu cherchais? Ouais. Faut respecter les convictions de chacun.
Respecter les religions des autres,
par exemple. Dans la tête, je l'ai dit. Et souvent, quand on se met en colère avec quelqu'un, c'est parce que ce qu'il est en train de nous dire, ça heurte nos convictions à nous. Et du coup, on ne comprend pas forcément et on peut se mettre en colère. Donc, à votre avis, tous ces besoins-là dont on parle, quand ils sont satisfaits, comment ça se passe entre
vous ? Très bien.
Quand chacun se respecte, quand chacun comprend.
Il y a un bon environnement, une bonne environnement.
Et quand ils ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qui se passe?
Ça génère de la colère, etc.
Et du coup, la communication, elle est comment?
Elle est détruite.
On a un mauvais dialogue.
Et du coup, on se dispute. Et quoi d'autre?
Il y a des insultes qui volent.
Il y a des bagarres.
Il y a des méchancetés.
Ça, on en vient aux mains.
Parfois, ouais.
Des bagarres.
Donc, c'est important d'analyser ses besoins et les besoins des autres pour avoir une communication plus fluide, plus zen, où ça se dispute moins, ça... Non, qu'est-ce que vous en pensez?
Plus constructif.
D'accord.
Exactement. La communication, en général, elle se base sur les besoins de chacun, les siens et ceux des autres.
Les siens, d'abord.
Je pourrais pas te répondre si les nôtres sont plus importants que celui de l'autre. En tout cas, il faut arriver à trouver un équilibre pour qu'on arrive à communiquer ensemble, en respectant les besoins de chacun. On va s'arrêter là, les enfants. Et franchement, je vous remercie. Vous avez été super une fois de plus. Merci beaucoup.
Ah, je suis dans le feu.
Allez, je
vous
laisse.
Dans ces séances-là, on aide les autres. Les autres, ils nous aident. On apprend plein de choses, en fait.
Ça nous fait évoluer sur la façon d'être. Le comportement,
c'est trop
ça
bien.
Permet
en fait.
D'avoir moins de conflits avec nos camarades.
En fait, quand il y a des histoires, elle essaye de les régler. Comme en dehors du collège, des fois, il y en a, ils partent pour aller se battre. Et mais elle, en fait,
elle les suit.
Les empêcher, quoi. Et après, elle regarde c'est qui veut se battre, elle les prend dans sa salle et elle essaye de régler l'histoire.
Par exemple, si je me sens pas bien, au cas où, je peux aller la voir et je sais que je peux lui faire confiance. Je pourrais tout lui dire et après ça va me soulager.
Est-ce qu'on se sent plus en confiance avec elle qu'avec peut-être la directrice du collège ou un professeur? Est-ce qu'elle a un rôle différent finalement?
Oui, c'est qu'elle, elle est plus concentrée sur nous par exemple que sur les études. Elle va plus faire attention à nous sur comment on vit, comment on est, ce qu'on va bien, ce qu'on va pas bien.
C'est à peu près comme un psy, un psychologue. On peut lui parler de tout ce qu'on a au fond de nous. Parce qu'en fait, des fois, on pense qu'on est à l'école, donc on peut parler que des études et de ce qui se passe à l'école. Mais non, et c'est bien le système qu'ils ont mis à l'école, parce qu'elle est venue en milieu de l'année dernière. Et il y en a plein, quand ils se sentent pas bien, ils viennent lui parler, ils lui expliquent. Et elle essaye de résoudre... les problèmes.
Quand on est avec le CPE ou avec la directrice pour lui raconter un problème, on va moins être ouvert vu que on va se dire si je lui dis que j'ai fait ça, peut-être qu'elle va me dire ça et qu'après elle va me punir, etc. Mais avec elle, elle va moins nous juger que la directrice ou le CPE.
Par exemple, elle a plus de temps pour nous, elle nous comprend.
Ça nous aide. Moi, par exemple, il y a un moment, je me suis fait exclure cours et j'étais énervé. Et après, elle est venue me voir. Et elle m'a expliqué, elle a dit ça sert à rien de s'énerver. Et en fait, elle m'a donné des conseils et à la fin, tout s'est bien passé.
Il y a beaucoup moins de bagarres depuis qu'elle est venue qu'avant.
Parce que à mon avis, elle a su leur dire, leur donner des conseils et tout ça. Faut pas se taper, faut plutôt discuter.
Et les conséquences aussi, pourquoi on va se battre en fait? Ça va servir à quoi à part à nous ramener des problèmes?
Elle, c'est Marie Cotte, diplômée de médiation sociale. À 46 ans, cette ancienne assistante d'éducation au franc-parler naturel est devenue médiatrice en milieu scolaire. Elle est arrivée au collège Jean Jaurès fin mai et son travail a commencé par un mois d'observation.
Ce que j'ai observé, c'était des jeux assez violents. Ils sont assez violents dans leur interaction. On a l'impression que c'est naturel pour eux. Et pourquoi ils sont violents, quand on leur pose la question, ils savent pas répondre. Du coup, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus et ça commence par la communication non violente. Du coup, analyser ses besoins, les connaître pour pouvoir répondre, interagir de manière plus calme, se comprendre un peu mieux, pour leur montrer déjà qu'on peut communiquer autrement que qu'en se tapant dessus, tout simplement. Et c'est vraiment sur quoi je vais axer mon travail cette année. J'ai envie de faire du préventif, pas mal de préventif. La différence entre le rire et la moquerie, les jeux violents, à quoi ça peut mener, les jeux dangereux, à quoi ça peut mener, tout ce genre de travail, en fait. Déjà, je suis là pour libérer la parole des élèves. Je suis pas l'institution, je représente pas l'institution. Le fait d'être impartial, neutre, d'être tenu à la confidentialité, ça libère pas mal la parole chez les élèves. Je suis là tous les jours. Je suis souvent dans la cour, je suis souvent dans les couloirs, donc ils viennent, on discute. Ils ont quand même compris, je ne sanctionne pas. Pour eux, c'est quelque chose dans un établissement scolaire qui est très bizarre, puisque quand je les ai dans mon bureau, le premier réflexe, c'est de me donner leur carnet. Et quand je leur dis « je n'ai pas besoin de ton carnet », ils ne comprennent pas. Au départ, ils ne comprenaient pas. Donc là, ça y est, ils ont compris déjà que la médiatrice ne sanctionnait pas. Demander à un élève qui rentre dans son bureau « comment tu te sens ?», déjà, ça change tout. Ce n'est pas « qu'est-ce que tu as fait ?»,« pourquoi tu es là ?», c'est « comment tu te sens ?». Même si je connais la problématique, par exemple une bagarre entre deux élèves, je vais m'occuper autant de l'un que de l'autre et de la même façon. Oui, je vais vraiment faire en sorte qu'au bout du compte, même si ça ne devient pas les meilleurs amis du monde, mais qu'ils se tolèrent en tout cas, qu'ils arrivent à se respecter. Et du coup, ils se sentent assez libres de parler. Et la parole est assez libérée. Ouais. La confidentialité aussi joue beaucoup. Ils n'ont pas peur que tout soit répété. Et du coup, ils se livrent pas mal.
Et en même temps, il y a des moments où on imagine que vous êtes tenu de répéter certaines choses, si vous entendez des choses graves, qui les mettent en danger, etc. Mmh. Où est-ce que vous placez finalement la limite entre ce que vous dites ?
Alors, j'ai un cadre déontologique. En fait, quand je suis face à une problématique qui dépasse mon cadre, je relaie l'information à la personne adéquate, je les préviens toujours. Je leur explique aussi que tant qu'ils ne se mettent pas en danger et que la situation n'est pas dangereuse pour eux, je garde l'info pour moi. À partir du moment où j'estime que c'est dangereux, je leur en parle et je relaie l'information.
Ça vous est déjà arrivé ici, par exemple ?
Oui, ça m'est arrivé pas mal de fois, oui. Ça va être une enfant qui vous dit qu'elle est menacée à l'extérieur, ça va être un enfant qui est régulièrement dans mon bureau, qui me dit qu'il est nul, qu'il est nul, qu'il est nul, qui est souvent en pleurs, qui a du mal à rentrer en lien avec les autres élèves. Dans ces cas-là, je recueille la parole de l'élève, mais je lui explique que là, ça va loin dans la problématique et que l'élève, du coup, est en danger. Et je relaie l'info à la personne qui est adéquate pour moi dans l'établissement. Infirmière, assistante sociale, psychologue de l'école, ça peut être la vie scolaire. Et puis la principale adjointe et leur CPE.
Est-ce que vous ressentez déjà les effets, finalement, les bénéfices de ces temps d'échange ?
Ça commence. Moi, ça commence. Ça commence quand j'ai en médiation des élèves qui se sont battus et quand je leur explique un peu quelle est la solution et comment on peut leur arriver à ce qu'ils arrivent à interagir différemment. Oui, ils comprennent. Ils comprennent. Alors, ça ne devient pas forcément les meilleurs amis du monde, mais ils arrivent à se respecter en sortant du bureau. Et ça tient. C'est pas tout le temps les mêmes élèves que j'ai dans mon bureau. Donc, c'est que le travail, ils comprennent. En fait, ils comprennent. Je les amène vraiment à la réflexion en leur posant des questions sur comment tu aurais pu agir différemment, quelle est la conséquence de ton acte maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver après. Et en fait, ça les fait réfléchir. Enfin, c'est beaucoup un travail de réflexion sur eux-mêmes et la solution, elle vient d'eux-mêmes au final.
Ceux que vous avez vus tout à l'heure, que vous avez déjà vus avant, est-ce que vous sentez qu'ils intègrent certaines choses, certaines notions, le respect, le sens, tous les besoins dont vous leur avez parlé ? Est-ce que c'est des choses qui s'impriment finalement ?
Alors oui, ça s'imprime, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore vraiment le fait de savoir qu'on a des besoins. Maintenant, de savoir le restituer dans ses relations avec l'autre, c'est plus difficile. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus.
Ouais. Vous sentez que vous êtes utile ?
Oui. C'est un dispositif qui devrait être dans tous les établissements français. Pour moi, c'est essentiel. Ça devrait être fait déjà dans les classes plus jeunes, vraiment chez les plus petits. Et du coup, on aurait des résultats, on aurait moins de violence, on aurait plus d'écoute les uns envers les autres, on aurait plus... Mais oui, c'est un dispositif pour moi qui est essentiel.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chances de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux.
Aujourd'hui, 72 médiateurs interviennent dans des collèges de France et dans les écoles élémentaires qui y sont rattachées. On parle donc de 40 000 élèves concernés par ce dispositif, des Hauts-de-France à la Guyane, en passant par Rennes, Nantes ou la région parisienne. Un réseau chapeauté au niveau national par l'association France Médiation. Laurent Giraud en est le directeur.
mais obligatoirement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans des établissements qui sont en REP+ ou en REP, prioritairement. Dans le développement actuel, on est aussi sur des sites qui sont en cité éducative. Et donc, on va choisir effectivement les établissements en fonction du climat scolaire et à la fois sur proposition des structures associatives. Et bien sûr, l'établissement doit être un établissement volontaire. S'il n'est pas volontaire, eh bien, il n'y aura pas de projet. Le projet est né de cette question du climat scolaire. Très clairement, quand on a commencé des expérimentations à partir de 2012, c'était vraiment le cœur du projet. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, si on veut sortir de cette médiation, je vais dire réparatrice, et si on veut être sur une médiation beaucoup plus, entre guillemets, éducative, je pense que la place qui va être donnée au développement des compétences psychosociales des enfants, leur redonner confiance, savoir être dans un collectif, je vais dire que c'est pour nous dans ce projet-là aussi important. Parce que quand vous allez travailler ces compétences, quand vous allez travailler avec l'enfant sur les questions de respect, les questions de citoyenneté, les questions de confiance en soi, etc., de fait, vous travaillez sur la question du climat scolaire, des violences et du harcèlement. Quand vous faites comprendre à un enfant qu'il peut faire du mal à un autre enfant rien que par la parole, parce que la parole peut tuer, vous travaillez justement de manière beaucoup plus forte parce qu'il conscientise ces questions-là et vous travaillez forcément sur le climat scolaire. Moi, je dis aujourd'hui, il y a une médiation qu'on va de gestion des conflits et il faut traiter le conflit tout de suite. Mais il y a une médiation, pour moi, beaucoup plus importante qui permettra effectivement aussi, même si je suis un peu utopique, de transformer notre société. La relation aux autres, elle est fondamentale. Donc si on arrive à faire en sorte que les enfants conscientisent que l'autre n'est pas quelqu'un qui est contre, mais qui peut être avec, et qui peut être une source de richesse, je pense qu'on aura gagné. Et moi, c'est ça qui est important, c'est comment on peut transformer et améliorer notre société à travers la conscientisation de ce collectif du respect des valeurs citoyennes, des valeurs républicaines.
Il y a quelques jours, en Seine-Saint-Denis, un adolescent a été tué devant un établissement scolaire. Est-ce que c'est un drame qui, malheureusement, évidemment, prouve l'importance du dispositif que vous déployez ?
C'est effectivement un drame. Ça ne devrait jamais arriver. L'importance du dispositif, oui, mais on travaille sur du long terme dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour éviter ces choses-là, il faut effectivement avoir du temps. On ne change pas des individus comme ça, des jeunes, des enfants. Il faut aussi ne pas considérer que le médiateur va tout résoudre. Surtout pas, quoi. C'est un maillon d'une chaîne de prise en charge globale. J'ai pas de réponse toute faite à votre question. Non, le médiateur n'aurait pas forcément pu éviter ça tout de suite, mais travailler sur la question de la conscientisation des enfants, sur l'autre, sur la richesse de l'autre, sur le respect des uns et des autres, sur les questions de citoyenneté, progressivement, oui, on peut éviter d'en arriver là.
Éviter les conflits en développant les comportements citoyens et la culture du dialogue, voilà donc le premier axe de la médiation en milieu scolaire. Gérer ces conflits quand ils naissent malgré tout, c'est l'autre volet du travail des médiateurs. Et l'intérêt de leur action de ce côté-là, c'est qu'elle dépasse les murs du collège. Le médiateur n'intervient pas seulement dans la cour ou les couloirs, il est aussi présent aux abords de l'établissement.
Ah bon, t'es sûr ?
Nous voici désormais à Bagnolet, devant le collège Travail Langevin, un grand bâtiment de briques rouges où sont scolarisés un peu plus de 500 élèves et où l'on retrouve le médiateur Bangali Bamba.
Donc là, c'est une situation où là, je fais ma présence active de proximité. Il est 16h30, c'est une heure de grande affluence où il y a beaucoup d'élèves qui sortent. Et mon but, c'est de les accompagner vers le chemin qui les mène à leur domicile.
Allez, on y va. Allez, vous avancez. Ne restez pas, trésor, ne restez pas devant l'établissement. Ça, je vous le dis tous les jours.
Oui, donc effectivement, il y a beaucoup d'élèves qui sortent de l'établissement. Et certains qui restent là, qui n'ont pas vraiment l'air d'avoir envie de partir.
J'essaie d'évacuer, il ne faut pas qu'ils restent devant le collège.
Qu'est-ce qui se passe quand ils restent devant le collège ?
En général, ils restent devant l'établissement, donc ça fait des attroupements. Donc des fois, il y a des chamailleries, et il peut y avoir des bagarres. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la prévention.
Attendez-moi, attendez-moi ! Allez, allez, vous évacuez, vous restez pas devant le collège, ça ne va pas.
Plusieurs petits groupes se sont formés, il y en a un qui attire l'œil du médiateur, on va le suivre.
Oui, Louche.
Qu'est-ce qui s'est passé là, parce qu'on n'a pas l'image? Bon, qu'est-ce que vous avez repéré?
Bon, ce que j'ai repéré, c'est que c'est des élèves de Polidière que je connais. Et j'ai repéré un tout de suite. Et dès que je l'ai vu, lui, parce qu'il n'a pas pour habitude de venir ici. Et je le vois venir, donc tout de suite, ça m'interpelle. Je pense qu'il va y avoir un problème. Et effectivement, il demande à un gamin. Apparemment, ils ont eu un problème. Mais là, je vais essayer de comprendre maintenant. Voilà. Anès, c'est toi qui est venu voir Bouillet? Il est venu voir qui, Bouillet? Il y a une histoire d'argent?
Pulitzer, un autre collège de Bagnolet, okay, dont certains élèves ont rejoint donc les abords du collège Travail Langevin où on se trouve.
On va aller faire un tour dans le parc juste parce que là, la plupart des élèves sont partis.
Donc en fait, il y a un parc vraiment juste en face du collège et vous savez que c'est un lieu où il peut se passer des choses,
exact,
c'est ça?
Exact. Et voilà, là, il faut faire attention. Et le plus souvent, quand ils veulent se bagarrer, ils vont derrière ce buisson-là, qui est juste là. Ils passent par ce chemin-là. Et là, ils se donnent rendez-vous pour se battre. Et là, il faut être très vigilant. Il faut être très, très vigilant. Une fois qu'on les voit partir là, il faut vraiment rester avec eux. Voilà.
Il y a très vite des attroupements, finalement. Ça reste des collégiens. Donc,
oui, oui.
Ça va vite, ça monte vite.
Exact.
Vous êtes obligé d'avoir l'œil un peu partout, finalement.
Exact, exact. Mon objectif, c'est de regarder un peu partout. Comme là, j'ai pu, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait des gamins qui étaient extérieurs au collège. Ça aussi, c'est quelque chose que je dois remarquer parce que j'ai pris mes repères dans le collège, j'ai pu identifier ceux qui sont partis du collège travail. Et quand j'ai des personnes qui n'en font pas partie, des élèves qui n'en font pas partie, j'ai tout de suite ce réflexe-là de comprendre pourquoi ils viennent devant l'établissement.
Est-ce qu'il y a des rivalités entre collèges, finalement, à Bagnolet notamment?
La même ville, oui, sous la même ville, du fait que ce n'est pas les mêmes quartiers. Donc, c'est des conflits de quartiers qui des fois viennent en découler devant l'établissement scolaire, malheureusement.
Et dans ce cas-là, à quoi sert votre présence?
Moi, je pense que cette présence-là est dissuasive parce que le fait qu'ils me voient, je pense que ça apaise pas mal de choses. Après, ça n'empêche pas que des fois, ils se chamaillent, ils se donnent des petits coups. Mais je pense que voilà, ça ne va pas plus loin parce qu'ils savent que tout de suite, je vais intervenir. Le fait de savoir que moi, je vais savoir qui c'est et que je pourrais aussi... ça pourrait se retourner contre eux. Le fait que je les ai vus, c'est pour ça que des fois, ils se donnent rendez-vous derrière les buissons pour se battre. Et le fait qu'ils savent que je vais être là et que je vais savoir qui s'est battu, ça fait qu'ils ne vont pas plus loin. Là, dans 10 minutes, il n'y a plus rien. Ils sont tous partis. Voilà, petit à petit. Mais je reste tout de même vigilant quant à l'élève de l'autre établissement qui est là. Parce que lui, c'est quand même un dur. Il vient voir ses copains, mais ça peut dégénérer. Il ne vient pas là par hasard.
Effectivement, ça a l'air de se tendre un peu plus loin. On va s'approcher.
Garçon, c'est bon. Là, vous arrêtez, vous rentrez.
Là, on s'est éloigné de quelques mètres. On est à l'arrêt de bus. Qu'est-ce que vous avez
fait? Lui, quand il est là, il attend. Là, il veut peut-être taper. C'est toi qu'on veut taper? Si, tu viens avec moi. Tu peux pas rester là. Je peux pas te laisser comme ça. Tu retournes dans le collège. Après, je te ramènerai chez toi. C'est fait.
Voilà donc un jeune élève extrait d'un début de bagarre avec le jeune homme repéré depuis le début. Il s'est éloigné du collège, hein, juste au coin de la rue, dans un endroit où, depuis le collège, on ne les voyait pas.
Mais il faut le dire, hein. Ils sont venus pour toi. Bah si, parce que là, il voulait te taper. Donc si je n'étais pas là, il t'aurait frappé. Non, il t'aurait frappé gratuitement, mais tu vas m'expliquer tout ça. D'accord?
Comment vous repérez là qu'il y a un problème et que
je sens le truc. Il venait vers lui, j'ai senti le truc. Et donc c'est toi qui es venu voir tout à l'heure, et quand je vous ai demandé, vous m'avez dit il n'y a rien. Alors qu'il y avait un problème. Oui, mais alors qu'on a expliqué plusieurs fois que nous on est là, d'accord? On est là pour vous accompagner. Il ne faut pas, voilà, faut pas avoir peur. Ok? On va attendre un tout petit peu, quand ça se calme, après je vais t'entendre chez toi, ok?
Et donc le médiateur reprend le chemin de l'établissement avec le jeune garçon, pas très bavard, mais en même temps qui a l'air un peu choqué et qui a en tout cas suivi Bamba Bangali très facilement sans s'y opposer, qui a l'air aussi tout à fait d'accord pour être ramené chez lui.
Il s'est senti en danger aussi. Là il se dit, voilà, moi monsieur Bamba il m'a sorti d'une situation. Pour moi c'est ça, hein. Parce qu'il allait rien dire, hein. Il allait se faire frapper, les autres allaient filmer, c'est ça. Parce que le Bouillet est très très dangereux, il a beaucoup d'influence sur tous les gamins de son âge de Bagnolet, ce jeune homme-là.
Donc si là, vous dites qu'il était un petit peu en danger, oui, je l'ai sorti, oui, ça, donc oui. Vous allez le ramener chez lui?
Oui, je vais le ramener, mais demain, en fait, il y aura un suivi. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, parce que peut-être qu'il n'avait pas envie de parler forcément là, maintenant. Mais peut-être que demain, tranquillement, il pourra bien m'expliquer tout ça.
C'est quand même pas quotidien que vous rameniez des élèves chez eux.
Hier, j'en ai ramené, aujourd'hui, je ramène, peut-être que demain, je vais ramener, je sais pas.
Son sourire le quitte rarement, Bangali Bamba. Mais quand on évoque avec lui dans son bureau la mort de l'adolescent poignardé au Lila, son visage s'assombrit.
Bon, ça me désole déjà la situation par rapport à ce qui s'est passé sur la vie des Lila. C'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quel établissement. C'est pour ça que nous, le fait qu'on puisse être aux abords des établissements, ça c'est hyper important. Et quand on a ce sentiment d'avoir réussi à désamorcer cette bagarre, on se dit, ouf, quel soulagement. Ça commence là, hein, parce qu'une seule information peut réussir à désamorcer un conflit qui peut amener jusqu'à la mort.
Tendre l'oreille dans les couloirs, à la cantine, devant le collège, écouter, surveiller. Sa situation particulière au sein de l'établissement donne l'occasion à Bangali Bamba d'entendre et de voir des choses qui permettent de prévenir des situations compliquées et qui parfois échappent au reste de l'équipe éducative.
Bonjour, je suis Mathilde Soileux, la principale du collège Travail Langevin de Bagnolet.
Alors dites-nous, vous avez un médiateur depuis le mois de février. Est-ce que vous sentez que ça sert à quelque chose, que sa présence est importante dans votre établissement ?
Sa présence est importante, elle est repérée par les élèves, mais il apporte un complément de ce que peuvent apporter les autres personnels de l'établissement. Il nous sert de relais avec les parents, et quand on a besoin de quelqu'un, en fait, pour parler avec, faire servir d'intermédiaire avec les familles et ne pas avoir la posture de celui qui punit, il nous est très utile, en fait. Et ça facilite les relations avec les familles et les élèves.
Parce qu'il a finalement une place très différente de celle qu'ont les enseignants et de celle que vous avez.
Exactement. Et c'est ça qu'on utilise avec M. Bamba. On utilise son savoir-faire, sa connaissance du territoire aussi, sa connaissance des jeunes, parce qu'il a travaillé comme entraîneur sportif et aussi comme surveillant, donc il connaît les deux côtés des élèves. Il faut qu'on travaille à bien garder cette posture privilégiée et puis qu'on puisse la développer et s'en servir sur le territoire. C'est pour ça qu'on le fait travailler avec l'autre médiateur social de l'autre collège de la ville. On veut qu'il soit repéré par tous les élèves difficiles pour pouvoir mener des actions de territoire et limiter les risques de rixes, qui sont un vrai phénomène chez nous.
Comment vous avez eu connaissance de ce dispositif ? On vous l'a proposé, vous l'avez réclamé. Comment finalement M. Bamba est arrivé dans votre établissement ?
Alors, les médiateurs sociaux ont été affectés dans les collèges du territoire Est Ensemble à la suite du décès d'un élève lors d'une rixe. Donc, ce triste événement a permis de débloquer ces moyens pour nous, et nous, on y voit des avantages parce que c'est vrai qu'ici, c'est un problème récurrent et que les tensions internes au territoire sont importantes. C'est important que les gens puissent se parler et que l'information circule très vite.
Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il apporte depuis qu'il est là ? Il apaise peut-être des situations ? Il y a moins de conflits ? Est-ce que vous sentez déjà des effets ?
Alors, on sent des effets dans l'attitude des élèves. Je ne sais pas si c'est le charisme de M. Bamba uniquement, mais on est tous sur le pont pour apaiser la situation avec les élèves, rappeler le cadre. En fait, on se rend compte que ces élèves ne connaissent pas le cadre. Ils ont un cadre, un ensemble de règles qui tirent de leur vie familiale ou de leur vie dans la ville, mais pas tellement de la loi. Et donc l'idée, c'était de leur rappeler la loi, de leur rappeler à quoi ils s'exposaient, et en même temps, de développer leurs compétences psychosociales, de travailler avec eux, de les faire réfléchir sur ce qu'ils font, sans pour autant qu'ils aient forcément la menace de la sanction. Ici, on est dans des situations sociales qui sont difficiles, précaires, tendues. Voilà. Les enfants ont besoin qu'on adapte le cadre et qu'on leur explique bien les choses et qu'on prenne le temps.
Je vais reprendre ce que disait Mefa tout à l'heure, les trois problématiques qui vont apporter les élèves, c'est... L'envie de se manger. Ça, c'est pesant.
Un cadre à rappeler, un climat à apaiser. Ce qui est arrivé au jeune Kevi au Lila met de nouveau l'accent sur l'urgence à agir. Ce drame a d'ailleurs largement occupé la réunion hebdomadaire des médiateurs franciliens de l'association Citeo la semaine dernière. Certains d'entre eux ont été envoyés sur place pour écouter les élèves.
Ouais. Pour moi, voilà, c'est une bagarre qui a dégénéré.
Pourquoi une bagarre anodine, c'est vraiment une guerre de territoire.
Derrière ça, il y avait peut-être déjà des histoires. Et puis ils sont venus en découdre là, mais bon, ils se préparent toujours. Hein, ils ont toujours un couteau, c'est pas la première fois, c'est un Lila. Hein. C'est entre eux, c'est voilà. Voilà, c'est territoire.
Ils t'attendent à la sortie du métro en disant t'habites où, tu vis où, tu viens voir qui, et tu te fais castagner si t'es pas dans la bonne
zone. Est-ce que vous avez un peu des pistes sur ce qu'on pourrait mettre en place, avec qui, des actions à mettre en place en partenariat.
À l'issue de cette réunion, ensemble, ils ont décidé de tenter quelque chose avec les clubs de foot des différentes villes concernées, une façon de décloisonner les projets des uns et des autres.
La logique de médiation, c'est justement de mettre autour d'une table l'ensemble des acteurs de la vie du gamin.
Antonio Furtado, le directeur adjoint de Citeo.
Le rôle du médiateur, c'est d'organiser une table ronde. Et en l'occurrence, dans ce dispositif-là, la table ronde, c'est mettre autour justement de la table l'ensemble des acteurs du système éducatif et de pouvoir coproduire les solutions ou les réponses aux problématiques identifiées. Déjà, le dialogue, c'est-à-dire se parler, échanger, se rencontrer, parce que malheureusement, on peut s'en rendre compte parfois, on a, entre guillemets, un millefeuille d'actions sur les territoires et elles ne sont pas toujours coordonnées, elles ne sont pas toujours partagées. Là, l'idée de la médiation, c'est d'avoir un jeu d'acteurs qui soit en permanence dynamique et qu'il y ait effectivement des espaces de rencontre, des espaces d'échange, puis un projet partagé. Et en l'occurrence, le rôle du médiateur, c'est de favoriser cette rencontre, favoriser cet espace d'échange pour co-construire les solutions. C'est pas chacun aura sa solution, c'est collectivement qu'on aura une solution. Quand il y a un souci dans le collège, très souvent, elle a des conséquences sur l'environnement du collège, donc le quartier, la famille. Quand il y a un souci dans la famille, à l'inverse, pareil, il aura forcément un impact dans l'établissement scolaire. Donc c'est comment tisser ce lien qui permette d'anticiper, d'échanger sur les situations de tel ou tel gamin afin de faciliter le traitement de la problématique.
Pourquoi il est si important ce partage ? Ça va permettre quoi finalement d'avoir des informations entre médiateurs, entre acteurs du terrain ? Qu'est-ce que ça permet d'obtenir derrière ?
Ça permet de ne pas se tromper, parce que je pense que se tromper dans le diagnostic, c'est déjà pratiquement se tromper sur le projet. Et le fait de partager, de savoir ce que les gens ressentent réellement, ce que les gamins vivent au quotidien, quelles sont leurs difficultés, pourquoi ils agissent de manière violente, pourquoi ils sont dans des logiques de rupture. Et toute la dimension que doit mettre en œuvre le médiateur, c'est sa capacité d'écoute pour pouvoir justement aller alimenter les réflexions sur les actions à mettre en œuvre. Et je pense que c'est le cœur même du sujet, c'est cette phase de diagnostic préalable. On demande à chaque médiateur à la rentrée scolaire de faire un diagnostic, de rencontrer les élèves, de rencontrer l'équipe éducative, de rencontrer les associations sur le territoire pour comprendre quel est le projet de l'un et de l'autre et de pouvoir justement proposer ou faire évoluer les actions dans le sens d'un projet global et territorial, et pas simplement chacun fait son projet dans son coin. Et je pense que c'est un élément essentiel de la structuration et du dispositif que l'on porte aujourd'hui.
Cette approche globale qui dépasse l'enceinte du collège semble porter ses fruits. C'est en tout cas ce que montre une équipe de chercheurs du laboratoire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Nina Guyon, chercheure à l'Université nationale de Singapour, nous en livre les principaux résultats.
On a trouvé effectivement une diminution à la fois du taux de violence, donc verbale, physique, psychologique, et du taux de harcèlement, c'est-à-dire une violence fréquente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trouvé en particulier une diminution de la violence pour les enfants qui étaient le plus sujets à la violence, qui sont, par exemple, au collège, ce sont les garçons de 6e qui vont être le plus sujets au harcèlement et à la violence. Et c'est pour eux qu'on trouve la diminution de harcèlement la plus forte. On trouve une diminution de 46% de la probabilité de se sentir harcelé, par exemple, pour les garçons de 6e. Donc, c'est vraiment un effet très fort. Et on trouve effectivement des petits effets sur la norme sociale. Enfin, déjà, de manière générale, on trouve que les normes sociales d'acceptation de la violence sont un petit peu effrayantes. On a par exemple 20% des élèves de collège qui disent qu'ils considèrent normal qu'un élève se fasse frapper. Et on trouve effectivement une petite diminution du pourcentage d'élèves qui trouvent que la violence est quelque chose de normal. L'autre élément vraiment intéressant, je pense, dans nos résultats, c'est donc d'une part les effets qu'on trouve sur l'amélioration de la relation entre la famille et l'école. Il semble que cette personne, ce médiateur qui était présent, a permis aussi de rapprocher les familles et l'école, de peut-être renforcer ce lien. Et de manière vraiment intéressante, on trouve une diminution de l'absentéisme à la fois pour les élèves. La proportion d'élèves qui disent sécher les cours diminue de 30%, donc c'est aussi un effet énorme. Et de manière très intéressante, on trouve également une très forte diminution de l'absentéisme chez les enseignants. ce qui, je pense, est quelque chose d'assez crucial. Ayant moi-même un petit peu travaillé dans un établissement d'éducation prioritaire, je pense que c'est vraiment un problème assez important. La violence aussi dont les enseignants eux-mêmes souffrent du fait des problèmes sociaux typiquement dans les zones urbaines sensibles. Et donc, on trouve que le pourcentage d'enseignants absents par jour diminue vraiment drastiquement, de 52% à 18%. C'est vraiment une baisse très, très forte qui, je pense, peut être un élément clé de comment améliorer le climat scolaire de l'école dans les quartiers les plus difficiles.
Les effets désirables du médiateur s'accompagnent malgré tout d'une difficulté principale, le modèle économique de la médiation à l'école. Elle repose aujourd'hui sur des financements publics, notamment les fonds de la politique de la ville, et dépend donc des choix et des orientations politiques. Et puis les médiateurs ne sont pas payés des 1000 et des 100, 1300 euros net par mois. Cela engendre un certain roulement dans les effectifs, mais il en faudrait plus pour décourager les défenseurs du dispositif.
Pablo Picasso.
Terminus. Nous vous invitons à descendre. Merci.
Nous voici à Bobigny, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, où nous attend Fadela Benrabia. Elle est préfète déléguée à l'égalité des chances, investie dans ce projet de médiation en milieu scolaire, puisqu'en fait, c'est un projet territorial qui repose sur un partenariat entre les associations, l'éducation nationale, les collectivités territoriales et la préfecture.
Alors, déjà, j'ai beaucoup d'espoir, je crois beaucoup à la question de la médiation. Je crois à la médiation parce que je pense que dans un pays extrêmement clivé, la culture de la médiation, c'est-à-dire la culture de l'apaisement, est quelque chose que nous devons construire. Ça veut dire que il faut qu'on, chaque fois qu'on le peut, on intègre des logiques de médiation comme méthode de relation, simplement. Et qu'on ne laisse pas des parties qui s'opposent s'opposer durablement. Et donc c'est ça, la médiation, déjà moi j'y crois beaucoup. Évidemment que s'agissant d'élèves, c'est-à-dire de jeunes, c'est là que nous pouvons avoir le poids le plus important en termes de résultats. Si on transmet cette culture de l'apaisement et de la médiation, culture de l'échange, culture du débat, du respect du point de vue des uns et des autres, et culture surtout de trouver des solutions pour sortir par le haut d'un conflit. C'est ça. J'ai pas dit que ça réglait tout, parce qu'il faut l'inscrire dans le temps et il y a la masse. Il faut à la fois beaucoup de médiateurs, il faut être nombreux à choisir cette méthode-là, et il faut s'inscrire un peu durablement dans le temps. Les cours de récréation sont minés par tout un tas de petits conflits qui peuvent dégénérer très vite. Les classes sont minées par tout un tas de micro-conflits qui peuvent eux-mêmes dégénérer assez rapidement et donner lieu à des règlements de compte. Alors, moi je vais développer, nous allons développer cela en Seine-Saint-Denis, puisque là nous sommes aujourd'hui à 15 médiateurs sur le département, nous allons monter jusqu'à 45. Ceci dit, ça ne suffit pas. Il faut aussi une vraie politique de prévention de la délinquance. Il faut s'attaquer au trafic de stupéfiants aussi, qui entourent les établissements, qui sont souvent à l'origine d'ailleurs de règlements de compte, qui sont d'une violence terrible. Il faut aussi travailler avec les familles. On peut travailler avec les familles grâce aux médiations, mais pas que. Il faut que l'institution scolaire continue le travail qu'elle fait. Et il nous faut évidemment coordonner le travail de tous ces acteurs-là. Les établissements, s'ils s'engagent à faire de la médiation, si des élèves sont engagés dans la démarche, ça n'a de sens que si autour, tous ces enseignants, toutes ces équipes pédagogiques, toutes ces équipes dans les établissements scolaires sont par ailleurs soutenues dans une dynamique par l'institution scolaire, qui elle-même est soutenue par un travail de l'ensemble des acteurs de l'État, mais aussi des collectivités, sur la question de la prévention de la délinquance, de la lutte contre la délinquance. Et puis un travail, donc c'est cette coordination-là qu'il faut instruire. C'est cette démarche-là qui peut arriver à donner des résultats dans la durée et plutôt probants sur la question de la violence. Sinon, évidemment, la médiation est un levier important, mais toute seule, évidemment, elle ne parviendra pas à régler toutes les difficultés que nous rencontrons.
À vous entendre, on comprend votre soutien à ce dispositif, votre investissement. Ça veut dire quoi? Que les équipes éducatives n'étaient plus en mesure d'apporter cette réponse à la violence toute seule aujourd'hui?
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à des situations de plus en plus complexes, très complexes. Voilà. La vie du quartier rentre, grosso modo, dans l'établissement scolaire. le rapport à l'autorité a changé aussi. Donc les enseignants, les adultes d'ailleurs, c'est pas que les équipes enseignantes, mais tous les adultes dans un établissement scolaire ont besoin d'être appuyés eux-mêmes pour pouvoir inscrire quelque chose dans la durée. Alors on est, c'est pas une histoire de ils savaient le faire, ils ne savent plus le faire, ils ne sont plus capables de le faire. Je pense que aujourd'hui, pour faire la même chose que ce qui était possible peut-être il y a une vingtaine d'années, il faut être un peu plus nombreux et puis être appuyé. Voilà. Et c'est ça qu'apporte la médiation aussi.
Est-ce que selon vous, c'est avec la médiation et cette approche globale que vous évoquiez qu'on arrivera à éviter à la Seine-Saint-Denis de revivre des drames comme la mort de cet adolescent de 15 ans qui vient d'être tué dans une rixe ou celle d'Aboubacar, 13 ans, mort lui aussi dans une rixe au Lila il y a un an ?
On l'espère. On l'espère. Encore une fois, je vous le dis, cette médiation est un élément important pour irriguer une culture de l'apaisement, du dialogue. Mais pour y arriver, il faut que, effectivement, on soit dans des actions coordonnées. Ensemble. Ensemble. On y travaille ensemble. Cet effort d'articulation des uns et des autres est absolument essentiel. Voilà, c'est ça. Le pari aujourd'hui, c'est la bonne coordination des acteurs.
Il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sur le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.
Médiateur scolaire, déconstruire la violence du quotidien. Un reportage de Rosalie Lafarge avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, le ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie. Alors, Julien de Normandie, est-ce que vous êtes personnellement convaincu de l'utilité de ce travail de médiateur scolaire ?
Ah oui, j'y suis très profondément attaché et je suis totalement convaincu par ce travail. Je suis totalement convaincu, le reportage excellent qui vient d'être passé montre à quel point c'est efficace. Moi, je crois beaucoup à la possibilité de régler des conflits par l'acte de médiation, par l'acte de faire comprendre que dans la communication, dans le respect de l'autre, on peut stopper des conflits. Un conflit, ça se génère, mais un conflit, ça continue à perdurer parce qu'on l'entretient précisément. Et la médiation, à ce titre, est à mes yeux quelque chose de fondamental. Mais je veux dire, c'est au cœur de notre société. Et notre société aujourd'hui souffre terriblement de ces oppositions stériles, de ce manque de communication, de ce manque de médiation. Et donc, moi, j'en suis convaincu. Et j'en suis convaincu, dans votre reportage, un laboratoire de sciences politiques analysait les résultats. Je crois qu'il parle d'eux-mêmes. Mais enfin, moi, je suis sur le terrain. J'étais à Romainville, il y a peu, dans une classe avec des médiateurs, avec également les élèves qui avaient été formés par les médiateurs qui jouent un rôle fondamental. J'étais à Marseille avec à nouveau des médiateurs et donc je le constate tous les jours. C'est un travail fabuleux que font ces médiateurs et il faut l'encourager. En tout cas, ils ont vraiment tout mon soutien.
Donc vous êtes favorable à ce qu'il y en ait beaucoup plus ?
Aujourd'hui, le reportage l'a montré, il y en a un peu plus de 70. Moi, mon objectif, c'est de les doubler dès l'année prochaine. Il y a un certain nombre de territoires, la Seine-Saint-Denis, on va même les tripler. Parce que ça marche, parce que aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, dans beaucoup d'écoles où c'est difficile, il faut absolument offrir cette possibilité à l'école, mais aussi aux parents, et en premier lieu aux enfants eux-mêmes. Tous, mais absolument tous, montrent qu'une fois qu'un médiateur est là, les choses changent parfois très fortement. Donc oui, il faut y aller à fond. Et moi, mon objectif, c'est de les doubler dès l'année prochaine. Alors, dire à quel point je les soutiens.
Vous parlez de doubler, ce qui veut dire évidemment qu'il n'y en aura pas partout. Donc sur quels critères définir les territoires où on pourrait développer la médiation ?
Je crois qu'il faut vraiment partir des remontées du terrain et donc partir des acteurs. En gros, aujourd'hui, vous avez des acteurs comme France Médiation qui font un boulot formidable. Le reportage l'a montré. Laurent Giraud était interviewé dans ce reportage. Et donc, moi, mon objectif, c'est de financer ces acteurs. Et j'ai deux sources de financement, mais des financements que je donne aux territoires, dans, par exemple, les écoles, mais aussi des financements que j'octroie aux associations elles-mêmes, qui sont vraiment les acteurs qui, à mes yeux, peuvent déterminer précisément là où il faut renforcer. Et donc France Médiation, par exemple, je vais leur octroyer, je l'ai adopté il y a quelques mois, un crédit de 2,5 millions d'euros sur 3 ans pour aller développer de la médiation scolaire. Donc c'est significatif, ça fait partie des crédits que moi, en tant que ministre, je gère, mais j'en ai fait une priorité d'action, parce que j'y crois profondément.
Et donc ce sont les associations qui vont définir les endroits où il est plus impératif d'agir.
Avec le rectorat, avec les préfectures, mais la folie, ce serait que moi, à votre micro, je vous dise « Bah écoutez, je suis persuadé que c'est ici ou là ». Non, je pense que la bonne politique, c'est de dire les acteurs qui, tous les jours, sont sur le terrain pour justement identifier les problèmes, ben puissent, eux, disposer de financement. Ça, c'est mon rôle de leur donner les moyens et qu'ensuite, ils les mettent en œuvre. Donc, ce seront les acteurs de terrain, les médiateurs eux-mêmes, France Médiation, et puis nos services de l'État, que ce soit les recteurs ou les préfectures, qui ensemble vont déterminer. Mais on sait d'ores et déjà qu'il y a des territoires comme la Seine-Saint-Denis, évidemment, évidemment.
Où le département le plus pauvre de France, où il y a toujours des problématiques.
Et puis, parce que malheureusement, les actualités tragiques de ces dernières semaines ont montré à quel point c'était important. Et donc, évidemment, là, on aura un effort encore plus important. On va y tripler les médiateurs. Mais je crois que c'est très important.
Alors justement, là, au Lila, on voit que la guerre des territoires, c'est un problème bien identifié. On ne sait pas comment le résoudre, ce problème.
Bah, malheureusement, c'est des problèmes qui existent depuis très longtemps. Ces fameuses RICS, c'est quand même aujourd'hui des situations qui perdurent, où on a tous en tête ces images, où encore dernièrement, des jeunes peuvent se donner la mort, enfin, donner la mort à l'autre, souvent pour des débuts de bagarre qui n'avaient aucun sens, ou parfois pour des raisons qu'il nous faut là aussi maîtriser, je pense au trafic de stup. Mais il n'en reste pas moins que vous avez des gamins, parce que ce sont des gamins ou des adolescents qui en viennent à ces actes tragiques, au Lila, à Garges-lès-Gonesse, il y a encore peu, avec des images insoutenables. Et donc, aujourd'hui, même si on observe des diminutions de certains de ces phénomènes, même si on les observe, il en reste encore beaucoup trop. À chaque fois, chaque tragédie est insupportable et ne devrait pas avoir lieu. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez d'un côté la fermeté avec les forces de police, et c'est essentiel, il faut être totalement ferme. Mais de l'autre côté, cette fermeté ne doit pas empêcher d'autres méthodes, comme la médiation, pour prévenir, pour régler le conflit à son début. Et le reportage l'a très bien montré, d'ailleurs. Et pour faire en sorte que ce qui pourrait dégénérer, ben, au final, ne va pas dégénérer.
Rosalie Lafarge.
Est-ce qu'il n'y a pas finalement un message de l'État qui a du mal à passer? Parce que après la mort de Kevin à Olila, on a sur les réseaux sociaux, sur Snapchat notamment, des choses qui circulent et qui disent 2-0, 2 pour les Lilas, 0 pour le Pré Saint-Gervais. On est dans le vocabulaire de la compétition. Et donc on redoute quelque part une vengeance pour revenir à égalité. Est-ce que vous n'avez pas peur de cela et du fait que ça s'envenime en permanence?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le combattre fortement, très fortement. Et que ce qui est vrai entre Lila et le Pré-Saint-Gervais, malheureusement, existe aussi sur d'autres territoires. Et là, il faut deux choses. Il faut la fermeté vis-à-vis de ceux qui ont commis ces actes. Parce que ce sont parfois des assassinats, il faut le nommer. Et puis, de l'autre côté, se demander, mais comment prévenir? À cette fermeté doit être mise en place cette prévention. Et la médiation est un acte de prévention. Dans le reportage, il y a un moment très important. Moi, je l'ai vécu, par exemple, à Romainville, où un médiateur dit « Cette médiation, il faut la faire dès le plus jeune âge. » Aujourd'hui, classiquement, les médiateurs vous disent « La médiation, on y arrive jusqu'en classe de 3e. » Mais parfois, ils débutent cette médiation dès la classe de CE2. Moi, j'ai rencontré des médiateurs formés, des élèves formés de CE2, CM1, CM2, avec une maturité très impressionnante. Et c'est le père de 4 enfants qui le dit. Parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils se qualifient eux-mêmes de médiateurs entre pairs pour aller vers les élèves. Et les médiateurs là-bas, les directeurs d'école vous disent quelque chose de très clair, c'est que cet enfant qui est formé en CE2, CM1, CM2, ce sera pas le même après. Ce sera pas le même après. Et donc pour moi, cette médiation, cette prévention, faut le faire dès le plus jeune âge pour inculquer cette notion de respect, de citoyenneté, de dialogue, de possibilité de partager autour de la table, comme il est dit et comme il est utilisé dans ce jargon de la médiation.
Alors
c'est comme
là,
ça qu'on y arrivera.
Alors que là, on a entendu dans le reportage que la violence, elle est intégrée dans le quotidien des enfants, que la violence, elle leur paraît normale, parce que c'est ce qu'ils ont connu depuis toujours.
Et il y a la violence physique dont on parle, ces fameuses rixes. Aujourd'hui, à ce phénomène-là, qui était peut-être parfois un phénomène encore plus prononcé il y a quelques années, mais qui perdure encore une fois. Et donc, il faut la lutter, fermeté et prévention. Mais il y a une deuxième violence aujourd'hui qui s'installe, c'est la violence verbale, notamment sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, la médiation, là aussi, a un rôle fondamental. Parce que qui sont dans les boucles de communication, que ce soit sur WhatsApp, dans les boucles SMS ou sur les réseaux sociaux? Ce sont les élèves eux-mêmes. Le professeur, le proviseur, le directeur d'école, les pouvoirs publics ne sont pas sur ces boucles. Et l'élève qui, lui, a été formé par ces médiateurs, il peut intervenir dans ces cas d'harcèlement. Le reportage montre bien le harcèlement en disant que les élèves, par exemple, de 6e sont particulièrement concernés. Ben là, il y a un rôle extrêmement important que la médiation peut aussi apporter face à des situations qui, en tout point, peuvent aussi devenir dramatiques. Donc violence physique, violence verbale, dans ces deux cas, pour moi, la médiation a un rôle très important à jouer.
Mais la violence, Julien de Normandie, c'est le fruit de fortes frustrations, d'un sentiment d'injustice, de relégation, des problèmes de fond auxquels la médiation ne répond pas.
Il faut absolument faire preuve d'aucune naïveté derrière tout cela. La médiation doit prévenir des problèmes qu'une société de manière générale est malheureusement en capacité de créer. Pourquoi vous avez ces problèmes? Parce que vous avez parfois une société qui est fondée sur un non-respect de certaines valeurs, notamment de la prise en considération de son prochain, du respect de l'autre, de l'acceptation des différences. Et ça, pour moi, en tant que ministre de la République, j'ai ce combat chevillé au corps. Et puis, deuxièmement, parce que vous avez des violences qui sont hypertrophiées par d'autres choses, comme le trafic de drogue, comme des trafics d'autres natures. Et ça, il faut lutter pied à pied contre ces autres sources de conflits qui, elles aussi, peuvent être meurtrières.
Vous parlez de l'acceptation des différences, mais qu'est-ce que vous pensez de cette polémique sur le port du voile par certaines mamans musulmanes?
Moi, vous savez, je suis un ministre profondément républicain, et ce que je trouve extrêmement essentiel dans notre République, c'est qu'il y a des libertés. Et que ces libertés, elles sont définies par la loi. Et qu'en France, sur la question du voile, on a plusieurs lois. On a d'abord cette loi de la laïcité, qui est fondamentale, parce que c'est l'une des plus grandes lois de liberté, la liberté de croire ou de ne pas croire, et d'accepter chacun, dans soit sa croyance ou le fait qu'il ne croit pas. Et puis ensuite, vous avez eu des lois en 2004, en 2010, qui ont encadré notamment le port de signes religieux. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut juste faire appliquer la loi. Et surtout, il ne faut pas stigmatiser les uns ou les autres, parce qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, quel est-il aujourd'hui? Ce n'est pas le combat du voile. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas le combat contre une religion, c'est le combat contre le dévoiement par certains d'une religion. Et un dévoiement qui peut amener à ce qui peut avoir de pire, c'est-à-dire soit un islamisme politique, soit jusqu'à des attentats que nous vivons encore dernièrement dans notre pays. Mais le combat, il est là, il est contre ce dévoiement. Donc pour moi, il faut respecter ce cadre de liberté que nous permet notre pays, que nous permet notre République, que nous devons chérir ce cadre de liberté en appliquant pleinement cette loi de 1905. Et puis, il faut respecter chacun dans sa différence, en ne se trompant jamais de combat. Le combat, il n'est pas contre une religion, il est contre le dévoiement de cette religion par certains. Je crois que c'est très important de le redire.
Un sujet sur lequel tout le monde n'est pas unanime au sein de la majorité, mais le médiateur de La République En Marche a été saisi sur le sujet. On peut espérer que ça apaise un petit peu la situation. Je reviens sur ce métier de médiateur que vous avez l'air de considérer comme vraiment étant très important. On entendait ce salaire de 1300 euros qui est quand même pas mirobolant, alors que on a besoin de personnes qui savent se faire respecter, qui ont une certaine expérience. Est-ce qu'il y aurait aussi moyen de revaloriser le travail de ces personnes?
C'est du cas par cas, mais effectivement, vous avez raison. Il y a des considérations salariales que nous devons prendre en compte. Aujourd'hui, un médiateur, moi, j'ai pris deux décisions pour pouvoir augmenter leur nombre. La première des décisions, c'est que mon ministère finance des postes qu'on appelle les adultes relais. Ce sont plus de 4000 personnes aujourd'hui et j'ai fait en sorte de pouvoir les augmenter pour qu'il y en ait 5000. Ce sont des relais partout sur notre territoire, parfois dans les territoires les plus difficiles, qui viennent créer ce lien. Et parmi eux, il y a la possibilité d'être médiateur. Et puis de l'autre côté, les critères de financement par ces postes d'adultes relais, effectivement, pour certaines personnes, ils ne permettent pas d'avoir un salaire suffisamment élevé au regard de l'âge, des compétences, des situations familiales. Et donc c'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure que France Médiation, je leur octroyais pour les 3 prochaines années cette poche de 2,5 millions d'euros, c'est parce que parfois eux, ou parfois les collectivités locales, ils viennent donner le petit coup de pouce qui permet d'embaucher quelqu'un avec un salaire plus élevé parce que le profil ou la condition familiale ou autre le nécessite. Donc il faut aborder ce sujet, vous avez raison, et voilà les réponses que aujourd'hui j'ai apportées pour pouvoir déployer encore plus ce dispositif demain.
Merci Julien de Normandie, médiateur déconstruire la violence du quotidien. Le grand reportage de cette semaine était signé Rosalie Lafarge, réalisation Annie Brault, avec Marie-Claire Oumabadi à la technique. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.